Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde.
Eh bien, voilà contre histoire. Et puis, vous savez pas, le maire interdit l'usage des flashballs sur sa commune. Parfaitement. C'est un article paru dans Mediapart. Alors, vous pensez. Article de Louise Fessard. Choqué par la répression du mouvement des Gilets jaunes, Danny Cocher, maire de la petite ville de Phalsbourg, et ancien macroniste convaincu, a pris le 8 mars un arrêté symbolique interdisant l'usage des lanceurs de balles de défense, communément appelés flashball, sur sa petite commune de Moselle. Aucun gendarme n'a jamais tiré au flashball dans cette commune de 4800 habitants. Mais finissant son dernier mandat, Danny Cocher, maire depuis 1993, est exaspéré par la répression du mouvement des Gilets jaunes et déçu d'Emmanuel Macron, à qui il avait donné son parrainage. Dans son arrêté, le maire, âgé de 58 ans, sans étiquette, comédien de métier, s'appuie sur les demandes du Commissariat des droits de l'homme du Conseil de l'Europe d'interdire le LBD, ainsi que sur la demande d'enquête approfondie de l'ONU sur l'usage excessif de la force contre les Gilets jaunes en France à l'occasion des manifestations. Bien qu'il ait été adressé au commandant de la brigade de gendarmerie de Phalsbourg, sa portée est purement symbolique. Merci, Monsieur Cocher, enfin un politique soucieux de notre sécurité. ont salué les gilets jaunes de sa commune. Et voilà un entretien de Louise Fessard, donc de Mediapart, avec Danny Cocher, le maire révolutionnaire. Pourquoi s'est arrêté Monsieur Cocher ? Il n'a aucune portée légale et n'a provoqué aucune réaction des autorités pour l'instant. Il est symbolique pour montrer ma désapprobation des méthodes du maintien de l'ordre en France, qui sont scandaleuses et dangereuses. Nous avons à Phalsbourg un noyau d'une centaine de gilets jaunes qui sont très calmes et ont une cabane en bord de rond-point. Ils ont tenu tout l'hiver et défilent le samedi sans aucun débordement. Mais les forces de l'ordre n'arrêtent pas de les embêter, de faire déplacer ou détruire leur cabane. L'État met une énergie disproportionnée à s'opposer à un mouvement citoyen. La cabane a été démontée, puis reconstruite sur un terrain privé dont le propriétaire a été menacé de sanctions. Je l'ai autorisée sur un terrain communal et maintenant on me cherche des ennuis. J'ai été convoquée à la gendarmerie et risque une amende pour avoir prêté ce terrain ainsi qu'un conteneur à ces gilets jaunes pour qu'ils puissent mettre leurs affaires à l'abri. Êtes-vous, monsieur le maire, pour l'interdiction de l'usage des LBD au niveau national dans le cadre du maintien de l'ordre ? Évidemment, oui. Aujourd'hui, il y a suffisamment de vidéos, d'enquêtes, comme celle du journaliste David Dufresne, pour savoir que ce ne sont pas les casseurs qui sont visés par les tirs de LBD. Les LBD sont une façon de décourager le mouvement des gilets jaunes avec des abus évidents. Il faut rappeler au gouvernement que dans un état de droit, il ne peut pas faire ce qu'il veut comme il veut. Le gouvernement devrait avoir conscience que ce ne sont pas des emmerdeurs qui sont dans la rue, mais des citoyens. De surcroît, quand on lance un grand débat, il faut écouter avant de réprimer. L'histoire des mouvements populaires et manifestations montre qu'il existe plein d'autres méthodes pour protéger le bien public sans utiliser des armes à feu. Nous ne sommes quand même pas dans une insurrection violente qui veut couper la tête aux élites. Il faut garder la mesure. De quel bord politique êtes-vous, monsieur le maire ? J'ai été invité à l'Élysée le 27 février, avec les maires du Grand Est. Mais j'ai décliné l'invitation et m'en suis expliqué dans une lettre. Maire depuis 26 ans, je n'ai jamais vécu, comme ces deux dernières années, une telle dégradation des relations et un tel mépris des hauts fonctionnaires à l'égard de la population et des élus locaux, y écrit-il. Je suis déçu de la politique du président de la République, Emmanuel Macron. C'est mon dernier mandat. Le climat global de la technocratie use. J'ai adhéré au mouvement En Marche avant les élections présidentielles et législatives. Et puis j'ai renoncé. Et voici un extrait de la lettre envoyée à Emmanuel Macron fin février 2019. Aussi, mardi 26 février à midi, je préférerais le jaune des gilets à celui des ors de la République, même avec un président en manche de chemise. Et j'irai partager un vrai et non pas un grand débat en mangeant une merguez à la cabane des gilets jaunes de Phalsbourg où j'ai découvert des personnes de tous horizons, sincères, ouvertes, motivées par le fait politique, endurantes à l'heure du zapping imposé et qui ont enfin compris qu'il y a d'autres façons d'agir plus intéressantes et plus efficaces que de systématiquement voter contestataire ou de s'abstenir aux élections. Et depuis que le comité local En Marche a disparu, encore plus vite qu'il n'avait été constitué, la cabane demeure le seul lieu où l'on puisse quotidiennement discuter de politique avec des citoyens. Monsieur le maire, quelles sont les principales préoccupations des gilets jaunes de votre commune ? Contrairement à la caricature donnée, ce sont des gens qui généralement n'ont jamais fait de politique. Ça partait de la question du pouvoir d'achat et du maintien des services publics dans un territoire rural. Puis, ils ont développé une réflexion très pertinente et intéressante. Pourquoi ne pas les laisser faire ? Il y a des limites dans leur organisation, le manque de profondeur ou de compétences parfois, mais une vraie appétence pour tous les sujets. Discuter avec les gilets jaunes de votre commune a-t-il changé votre façon de gérer les affaires publiques à Phalsbourg ? Oui et non. Dans une petite ville, on pratique déjà une forme de démocratie participative dans les dialogues au marché, au bistrot, avec les associations. On aurait pu peut-être organiser des débats thématiques. Sinon, nous avons augmenté les primes des quelques 80 agents municipaux en janvier, ce que je n'avais pas fait depuis des années, car j'ai réalisé combien cette question du pouvoir d'achat était prégnante. Et on a remarqué qu'il y a eu diffamation des gilets jaunes et que le pouvoir tente tout pour s'en débarrasser, ce qui peut inspirer pas mal de réflexions.
Il devrait bien leur lâcher la grappe aux gilets jaunes, le président. Car s'il a repris quelques couleurs et points de popularité, c'est bien grâce à ce gilet jaune qui s'en est pris si bêtement à Finkielkraut. Merci, mon frère, qu'il aurait dû dire le Macron. Car sans cette bourde, notre jupitérien président mordait encore plus la poussière. Il va falloir penser à le récompenser, le gilet jaune. Oh, pas ostensiblement, bien sûr, mais discrètement. Car on peut le dire, le président de la République doit une fière chandelle à ce gilet jaune qui permet de faire oublier que, du fond de son Élysée, le Manu, il étouffe un peu plus chaque jour nos libertés. Grâce à ce scandale bien médiatisé, le président semble en même temps à nouveau le chantre de l'humanisme et des droits humains. Vous ne croyez pas ? Non, j'ai pas trouvé ça toute seule. Et c'est bien ça le problème. Car ça commence à se murmurer dans les chaumières et sur les ronds-points. En fait, qu'est-ce qu'il a dit, le gilet jaune à Finkielkraut ? Sale sioniste ! Sioniste n'est pas une injure, c'est une opinion politique. Pas la mienne, car si on situe ce mode de pensée dans son contexte sociopolitique, on peut le traduire plus largement et précisément par colonialiste actif ou sympathisant de l'expansion d'Israël en Cisjordanie. Qu'il soit israélien, américain ou chinois, un sioniste, c'est ça, aujourd'hui. Au début du XXe siècle, c'était différent. Je ne vais pas ici re-raconter l'histoire des pogroms à travers les siècles, ni même de la Shoah. Mais on peut comprendre que certains aient été sionistes au XXe siècle et même avant. Non. Sioniste n'est pas une injure antisémite. Parce qu'il n'y a injure que quand il y a mensonge, et mensonge infamant. C'est pourquoi le gilet jaune n'a pas traité Finkielkraut de juif. D'abord, Finkielkraut est juif. Et ensuite, juif n'est pas plus infamant que breton, auvergnat ou inuit. De plus, l'injure, apostrophe mensongère et infamante, ne déshonore, ne salit que celui qui la prononce. Alors, Avoir interpellé ainsi Finkielkraut, ce n'est pas une injure. C'est seulement une stupidité. Stupidité politique dangereuse par les temps qui courent, provoquant forcément les remous que l'on voit. S'il avait dit « sale juif », il y aurait eu injure. Ça aurait été différent. Juif, ce n'est pas une injure. C'est comme nègre, terme dont Césaire nous a appris qu'on pouvait dignement le revendiquer. C'est l'association « sale juif » ou « sale nègre » qui sont des injures à cause du qualificatif infamant associé. Il faut remarquer que quand on fabrique une injure de la sorte, c'est qu'on est à court d'arguments. C'est qu'on sait très bien qu'on n'a rien de tangible à reprocher à celui qu'on apostrophe et qu'on n'a même pas l'intelligence de l'imagination. Pauvre type. Bâché bouzouk, gras du bide, bouffeur d'escargot, grenouille au vore, comme disent les Anglais, les poètes.
Mon retour à l'écriture s'effectua de la manière suivante. Avec un mélange de fascination et de transe, je contemplais la gigantesque terrasse, constatant qu'ici les cendres avaient en quelque sorte fait place aux cèdres, et pendant qu'un de mes amis sirotait son verre de cidre, votre narrateur, lui, s'apprêtait prestement à descendre. Nous étions si loin des tours sombres et barres d'immeubles, quelque part à l'abri dans ce bourg de marbre, que je ressentais pour ce lieu un attrait étroit, voire étrange, à croire que cet endroit était issu d'un autre âge. Un naufrage m'ayant jadis échoué sur ses berges, avait ouvert en moi cette brèche et m'avait laissé pour presque barge. Il était clair qu'après 24 mois et 86 heures d'une interminable errance, cette air minable errance avait quelque peu imprégné mon iris. Alors, pour lutter contre cette frustration et ce doute qui crescendo montait, un jour, à l'aide d'une plume et d'un carnet, j'ai médité, mis du temps, mis enfin un peu de thé dans mon temps minuté, avant d'entendre brusquement en moi cette voix résonner. Oh, tu peux versifier si tu le souhaites, mais ne va surtout pas te fier à tous ces piètres vers que tu récites pour espérer de maigres recettes ou une quelconque réussite. Mais après la surprise et la passivité, ce coup-ci, je ripostais. Ton air hautain, ainsi que tes paroles austères, pensent peut-être à tort et en un éclair pouvoir faire taire ma ténacité, mais persiste et à terme mon véracita, véracité se vérifie. Inconscient que tu es, ne vois-tu pas que ce métier est dur et incertain et qu'il ne dure souvent qu'un certain temps? Certes, mais j'ai aussi dans ma vie, parfois saisi, qu'être ravi ne coûtait pratiquement rien, et que bien souvent, on en venait à s'écarter de ses envies simplement par peur du ravin. Alors, depuis que je revis, les codes sociaux perso, j'en reviens. Beaucoup comme toi, lorsqu'ils se sont lancés, avaient pour objectif les liasses et ne voyaient surtout pas la nécessité de s'abriter. Cependant, lorsque la célébrité un jour un peu lasse a dû cesser de s'ébruiter, ben là, hélas, nombreux sont ceux qui ont été enlacés par l'ébriété. C'est embêtant, je sais, mais si les temps sont à l'excès, c'est aussi quelque part parce que l'accès à la liberté est un leurre. Alors, plutôt que de l'accepter, de me taire, de m'ancrer dans un boulot austère et d'avoir chaque jour le sentiment d'avoir commis un adultère, je préfère, une fois devenu adulte, décider de faire enfin ce qui me tenait tellement à cœur étant enfant. Entêté. Après tout, si ça tente dans le fond d'agir en fin temps et d'avoir un comportement enfantin, alors qu'il est enfin temps que tu grandisses un peu, que tu cesses ainsi d'être ivre et que tu foutes pour le moins toutes ces envies au feu. En effet, pour ce qui est d'en vivre, je ne sais pas si ça passe, si on peut. En tous les cas, sache que je ne trouve plus cela si honteux d'avoir une passion tenace. En bref, je ne m'embarrasse plus de choses à bannir. Depuis que j'aspire au bonheur, et même si encore aujourd'hui beaucoup de choses m'atterrent, l'art malgré tout m'attire. car j'ai senti que grâce à lui, je me libérais de mon armature. Et c'est en effet le jour où j'ai déposé la première larme à terre que j'ai pu alors commencer à lire mes torts. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait d'abord déposer les armes à terre pour espérer un jour avoir l'art mature.
C'étaient nos amis les Arpenteurs, Mehdi Seri et Arthur Coriolan-Wilmocht. Alors nous revenons à contre-histoire ou à contre-présent. Samedi s'arrêtera théoriquement le grand débat. Alors ce grand débat, on pouvait l'aborder ou le considérer de façon diverse. Il y a des municipalités qui ont boycotté et on les comprend parce que vu la façon dont nous traite le gouvernement, on peut imaginer que les témoignages, les demandes de la population ne seront pas prises en compte. Et je pense que c'est ce qui a motivé certains maires à refuser d'organiser le débat dans leur circonscription. Mais d'autres ont saisi la balle au bond et se sont dit que c'était l'occasion, ou jamais, de prendre le micro et de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Alors je suis allée dans deux de ces grands débats. Et j'ai enregistré comme j'ai pu. Alors c'est difficile parce que dans une assemblée où les gens sont venus avec un gros ras-le-bol et une grande envie de s'exprimer aussi énergiquement que possible, c'est... Alors j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tripatouillé, j'ai monté le son, je l'ai baissé, j'ai coupé, j'ai... Je vais vous passer ça quand même. Alors, je vous en passe un morceau qui a été enregistré à la Barthe-sur-Lèze. Ça a été enregistré en extérieur parce que la municipalité n'avait pas voulu organiser ce grand débat. On était une douzaine, une quinzaine, et les gens ont abordé avec beaucoup de sérénité et de courtoisie ont abordé les problèmes qui se posent à eux et ça montre un niveau de réflexion très élevé. On y parle de handicapés, on y parle de lutte contre le clientélisme électoral, on y parle de la vie citoyenne et des participations locales. On y parle du vote que l'on demande obligatoire, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On y parle de la diversité biologique et naturelle et de la diversité humaine. Voilà, je vous laisse écouter cet enregistrement.
Il n'y a pas de problème, de toute façon le but quand même... Ah ben, allez-y.
Je ne vais pas monopoliser, mais j'aurais aussi une question à propos de la manière dont sont répertoriés les chômeurs. Le mode de calcul et d'enregistrement des gens en recherche d'emploi a changé depuis, je crois, à peu près 18 mois, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Alors, je voudrais... Oui.
Non, vas-y, oui. Parle plus oui. près.
Je voudrais donc savoir quel est exactement le mode de comptage, le mode d'enregistrement des gens en recherche d'emploi, parce que ces jours-ci, vous vous êtes aperçu que le gouvernement se vante beaucoup d'avoir fait baisser le chômage. Alors si on a fait baisser le chômage en rayant les chômeurs parce que ils sont trop âgés ou parce qu'ils n'arrivent pas à rejoindre les lieux de travail qu'on leur a proposés et qui ne leur conviennent pas, etc. Tout dépend pourquoi on les a rayés des statistiques de chômage. Moi, je voudrais avoir des précisions là-dessus.
Est-ce qu'elle peut répondre ?
Je suis dans la même merde.
Pour le chômage, tous ceux qui sont en stage.
Oui, voilà.
Tous ceux qui sont en stage, qui font des formations, qui font des petits boulots de, je sais pas moi, de 5 heures, de 10 heures par semaine, eh bien ceux-là, ils sont rayés.
Oui,
donc, ils te proposent de plus en plus, moi, je peux en parler parce que je suis dans cette situation, donc ils proposent de plus en plus de formations. Et comme ça, ça réduit le comptage, justement, des chômeurs.
Absolument.
Pour eux, ils ne sont plus au chômage s'ils sont en formation.
Tout à fait, oui.
Donc ça aussi, ben, ça, c'est pas normal, parce qu'en fait, ils sont toujours demandeurs d'emploi, ils sont en formation pour trouver un boulot. Donc ils sont toujours, et c'est la formation, c'est le Pôle emploi qui le paye. Donc ça devrait être comptabilisé dans les...
Pour compléter ce que vous venez de dire, c'est même pire que ça. Quand les demandeurs d'emploi sont comptabilisés suivant plusieurs catégories. Oui. La catégorie 1, c'est celle qu'on nous annonce, dont on nous annonce les chiffres qui diminuent, qui augmentent, etc. Ce sont les demandeurs d'emploi qui cherchent un travail à temps plein en CDI. Il n'y a que de ceux-là dont on entend parler, il faut être clair. Les autres, ceux qui cherchent un travail à temps partiel, ceux qui cherchent... ceux qui sont même plus indemnisés par Pôle emploi, mais qui au demeurant sont demandeurs d'emploi, ils cherchent un boulot encore, hein. Ceux-là sont dans les catégories en dessous et n'apparaissent pas dans les chiffres qu'on nous présente. D'accord ? Donc après, oui, le chômage a baissé de 0,3. Ok. Entre ceux qui sont en formation de catégorie 1, qui ne sont pas comptabilisés tant qu'ils sont en formation... ceux qui, en effet, auront travaillé 5 heures une semaine, 3 heures la semaine suivante, sur le mois d'après, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, bon, voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 10 millions de personnes privées d'emploi. C'est ça, la réalité.
Et si on leur ajoute les familles qui dépendent de ces gens-là, voyez un peu les statistiques épouvantables des gens sinistrés par le chômage.
Ouais. Allez, si vous le souhaitez, madame. Une autre remarque sur...
Donc peut-être pour lancer le débat, si on se réfère à nos thèmes choisis, comme l'environnement, on est actuellement dans une période où les... annonces tombent les unes après les autres. Je ne parlerai pas du réchauffement climatique, mais ne serait-ce que l'annonce de la sixième extinction de la planète, les pollutions qui finissent maintenant, on sait, par tuer plus de monde que n'importe quelle maladie sur Terre, etc. Et donc, si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet de l'environnement ou pas, non ? Pas de contribution ?
Alors, comment vous dire ? Moi, c'est un sujet qui me touche, qui me bouleverse. On a des enfants, tous, certains grands, d'autres encore petits. Et on est quand même à un moment où, en effet, alors les multiples annonces, les multiples rapports du GIEC et autres, les signaux d'alarme qui sont tous au rouge, écarlate, enfin il n'y a même plus un rouge assez rouge pour dire à quel point c'est urgent de prendre conscience et de se bouger, individuellement les uns les autres, on se bouge, on fait des choses, chacun trie, on essaie, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas une ligne de conduite qui soit nationale pour montrer que c'est possible, pour qu'ensuite, au niveau international, d'autres pays se saisissent, et il y en a qui montrent déjà l'exemple. Nous, on est bon dernier. La COP21, sur laquelle tout le monde s'appuie pour dire c'est fantastique, c'est fabuleux, ils étaient tous d'accord. La France est bonne dernière sur l'application de la moindre mesure qui irait dans le sens au moins de stopper les émissions de gaz à effet de serre pour ne pas dépasser 1,5 degré, c'est ça, si je ne m'abuse, de réchauffement.
Ça change tous les jours.
Ça change tous
et
les jours.
Et pas en bien.
Non, hein, on essaie de pire en pire. Et en définitive, on est tous responsables de ce qu'on laisse derrière nous, tous. Mais d'aucuns sont encore plus responsables que nous. Et à aucun moment, cela, on ne va les chercher. À aucun moment, on ne va taxer le kérosène des avions, par exemple, ou le fuel des bateaux. Il faut savoir qu'un navire de croisière, pour ces belles croisières partout à travers le monde, quand il est à l'arrêt dans un port, il pollue plus qu'un million de voitures qui roulent. Bon, ben celui-là, il n'est pas taxé, bizarrement. Nous, l'essence qu'on met dans le réservoir pour pouvoir aller bosser, ben celle-là, elle est plus que plus taxée. Donc, il y a tellement d'incohérences. Et pourquoi je fais référence aux enfants? Parce qu'il s'est passé hier quelque chose qui a été la première mobilisation des jeunes en France. Alors, ils étaient 1000, les pauvres petits, à Paris, devant le ministère de l'écologie. En Belgique, c'est des journées de mobilisation où rien qu'à Bruxelles, ils sont plus de 30 000. Alors nous, je nous trouve vachement endormis, très, très endormis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à côté de ça, je regardais aux informations des questions qui étaient posées à un lycéen qui est représentant d'un syndicat de lycéens. Et je trouvais les questionnements de la journaliste en question tellement méprisants à l'égard de ce jeune qui expliquait, plutôt très bien d'ailleurs, pourquoi cette mobilisation, pourquoi il fallait la faire, que c'est de leur avenir dont on parle. Voilà, donc ben, de la même manière qu'il y avait une sorte de mépris à l'égard des gilets jaunes au début, ben là on retrouve le même à l'égard de ces jeunes qui s'impliquent pour eux dire « Oh les gars !» Alors il y avait une très jolie affiche, j'ai bien aimé, « En 2050 vous serez morts, et nous qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, donc ils interpellent les adultes sur ce qu'on fait pour leur avenir. Et personne ne bouge. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Thank you.
j'ajouterais qu'on n'est pas beaucoup à bouger pour s'opposer à l'installation de l'usine Chimirec à Muret. Ils ont déjà acheté le terrain et ils n'attendent plus pour traiter des déchets chimiques très toxiques, ils n'attendent plus que la bénédiction du préfet. Alors, on est sur les starting blocks, on surveille, on attend, et on nous mène un peu par le bout du nez, on n'a pas de nouvelles concrètes, sauf que quand l'avis que l'on suppose positif de la préfecture va tomber, ben, il ne nous restera plus que le tribunal, avec la mesure dilatoire que ça représente, et quand est-ce que on arrivera à se débarrasser de ce projet. Voilà.
Voilà. Voilà.
J'aurais une remarque. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets ? On va les
envoyer en Afrique ? Ah non, on ne les enverra pas en Afrique. On n'en a pas besoin de ça, madame. Il y a 3 usines de traitement des déchets toxiques sur Toulouse, au nord-est, et y en a une qui n'est pas très loin d'ici. J'ai pas révisé, excusez-moi, je sais plus exactement, mais il y a 3 usines qui sont au top de la technologie et de l'écologie pour le traitement des déchets toxiques. On n'en a pas besoin. Simplement, Chimirec, qui a dévasté, par exemple, le département de la Mayenne, Chimirec est descendu au sud pour se faire oublier. Chimirec... Merci. Chimirec est installé à Carcassonne et il veut décongestionner le centre de traitement de Carcassonne pour nous en faire bénéficier. Mais on n'en a rien à faire. On est super équipés. Tout le monde le sait. Les préfectures, bien entendu, l'Adréal, etc. Tout le monde sait très bien que nous n'avons pas besoin de cette entreprise qui est une entreprise de gangsters qui ont, je ne sais pas, vous avez certainement vu le petit paysan. La façon dont les paysans doivent mener à l'écarissage tous leurs troupeaux quand il y a une pollution des prés, etc., ben c'est ce qui est arrivé en Mayenne et c'était une catastrophe terrible. Bon, pour faire oublier ça, ils sont venus polluer chez nous. Ben, on n'en a pas besoin et on ne voit pas pourquoi, en faisant du dumping technologique, en proposant à des prix très bas un recyclage, un traitement qui n'en sera pas un finalement. Alors voilà, on a essayé de faire de l'info. Je pense qu'ici, elle a été faite aussi bien qu'ailleurs. Et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour les prochaines manifestations contre Chimirec.
Vas-y.
La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène le peuple à la victoire. Je connais des catégories de gens qui luttent pour que la vie cesse pour le peuple d'être un tourment. En 81, année noire où le gaz, le sel se font rare. Discutons d'idéologie, évitons les acrobaties. Les questions de changement d'Haïti devraient se faire au prix du sang, au prix d'une bonne révolution. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Je sais que j'aurai des comptes à rendre dans ce tribunal qu'est la vie. Quand je disais ce que je voulais, s'agissait-il de positions que je prenais pour mon plaisir? Faut croire que j'idéologise, pour le peuple ça ne veut rien dire. Faudrait pas trop que je m'abuse en me faisant juge des moins manants. Faudrait maintenant que je sois conscient. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Pour connaître le paysan, on devrait prendre le chemin avec lui au lever du jour, revenir la nuit fatigué en fredonnant ses beaux refrains. Mais c'est le contraire qui se produit. On parle pour lui, on l'expertise. On se porte garant de tous ses mots sans avoir jamais fait le tour de ses problèmes de tous les jours. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la sueur, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la sueur, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire.
Bonjour. Ce qui m'inquiète le plus, et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la biodiversité. C'est-à-dire que là, ils disent que d'ici 5 ans, mais je ne sais pas, 75% de la biodiversité va disparaître. Donc tout ce qui nous permet, c'est surtout les réfugiés microclimatiques à qui on ferme les portes. Il faut savoir que ces gens-là, ils viennent pas de gaieté de cœur. Hein. Ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Parce que justement, il n'y a plus de biodiversité, entre les richesses qu'on leur pille, machin et tout. Mais c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas quémander ici. Enfin, ils viennent, entre autres, quémander, oui, si on veut, mais ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux. Donc, je ne sais pas, l'écologie, c'est un tout. Ce n'est pas que la taxe carbone. Donc, on vit sur cette terre. Il faut se serrer les coudes et puis faire en sorte que tout le monde puisse vivre bien chez soi. Quoi. Je suis d'origine algérienne. Bon, je suis né en France, mais mon grand-père est parti parce qu'il a combattu les nazis et tout. Enfin bon, je vais pas raconter et tout. Mais bon, c'est parce que chez lui aussi, il s'est engagé dans les jeux étrangers. C'est parce qu'il s'est engagé, c'est parce qu'il ne pouvait pas nourrir sa famille. Donc, le seul moyen de nourrir sa famille, c'était de s'engager dans l'armée. Donc, mais on ne lui a pas trop donné le choix, c'était aller combattre les nazis. Je me rends compte qu'en Europe, il y a des partis, enfin, des voix extrêmes qui s'élèvent et tout, mais à un moment donné, il faut discuter de ça aussi. Ça fait partie de la diversité aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà, j'avais ça à dire.
Tout à fait.
Donc, voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre.
Il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole,
qui veut poursuivre.
Bonjour, alors moi évidemment je rebondis sur ce que vous disiez et je suis évidemment d'accord. Après je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est contre la transition énergétique, etc. On est tous en tant que citoyens, et en plus qui plus est quand on a des enfants, on est tous soucieux de l'avenir de nos enfants. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui partagent ce sentiment. Et c'est pour ça que c'est au pouvoir public de prendre en compte les transports. Ça c'est la première chose, les transports publics. Parce que si on faisait des transports publics, alors peut-être pas gratuits complètement, mais enfin, je pense que développer le transport, c'est la base à tout. A déjà un grand point de départ. Et ça, je pense que chacun d'entre nous, on peut solliciter quand même les élus et les obliger, que ce soit sur le ferroviaire, puisqu'on a les infrastructures qui sont faites pour, c'est de se battre pour que les arrêts se fassent un peu plus nombreux, puisqu'ils y sont, donc ça ne coûtera pas plus cher. Et il y a des dotations en plus étatiques qui sont en direction des régions pour ce sujet-là. Voilà. Ça. Et au niveau des routes aussi, je pense qu'aussi on peut désengorger en repensant de nouvelles pratiques de déplacement pour le covoiturage, mais que ce soit saisi, soit au sein d'une commune, et que ce soit facilité, qu'il y ait des points d'accès et qu'il y ait un accompagnement des citoyens. Voilà, c'est ce que mon intervention.
Ces vacanciers de guerre, créateurs de misère, ces porteurs de virus que la médecine innocente, ces étoiles de gangrène, déguisés en sauveurs qui contaminent l'espace de leurs rayons de merde. qui se déguise en touriste, aux mains blanches, au cœur tendre, nous les laisser pour quand ils viennent nous baiser en douce. Touristes aux mains blanches, touristes en vacances, tu parles de mon pays, tu parles de paradis. Mais paradis pour qui? Le paradis des uns, ça fait l'enfer des autres, et les autres c'est qui? Ceux qui bâtissent leur taudis avec les restes de tes manoirs, qui osent montrer leur misère noire et déparer des paradis. Étonnés de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières. Pas surprenant que l'exotisme les attire. C'est répugnant ce que ces visites nous apportent. Les Bahamas, Porto Rico et puis mon île. Les bases militaires, ça et là, font la parade. Les mains du touriste yankee jamais ne donnent. Ça descend dans notre pays avec sa haine. En ingénieur, en advisor pour faire le change, pour faire rire le statu quo qu'ils imaginent. Touristes aux mains blanches, touristes en vacances, là dans tes champs de canne à sucre, pousse tes enseignes de la mort et nos bras sus à bêcher l'or pour engraisser tes coffres forts. Étonné de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous, nous domestiques dans vos villas, nous jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières.
À propos de ce que disait notre compagnon sur les immigrés.
Je ne parlais pas d'immigrés, des réfugiés microclimatiques.
Les réfugiés, oui.
Qu'on appelle des immigrés, mais en réalité, ce n'est pas des immigrés.
Oui. Ben moi, je suis d'origine immigrée. Alors,
c'est plutôt des réfugiés comme les républicains espagnols.
Oui. Simplement, une toute petite chose. Ce que j'ai en main et ce que vous avez dans vos poches, j'ai l'impression que nous l'avons un peu volé, même beaucoup volé, à tous ces pays qui sont en détresse, qui sont les plus soumis au réchauffement climatique, parce que on a fait des catastrophes écologiques, et nous devons tous ouvrir nos frontières et nos portes aux gens qui souffrent pour notre confort. C'est effarant. Et quand je pense que le FMI et les organisations internationales ont le culot de leur imposer ce qu'ils appellent la dette, mais c'est nous qui avons une dette. Et une dette gigantesque. Hein? N'oublions pas que la révolution industrielle s'est faite à partir de l'esclavage. Voilà.
Bonjour. Moi, je voulais dire quelques mots. D'abord, je me posais la question, mais pourquoi on est tous là? Pourquoi en France, il y a nos institutions se trouvent un peu fatiguées, un peu obsolètes, on va dire. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens, petit à petit, ne vont plus voter, les abstentionnistes, pas mal le vote blanc. Et donc, et puis on s'aperçoit aussi que des partis qui font des scores à deux chiffres, vous avez vu la présidentielle, qui sont très très peu représentés. Mais c'est vrai que ça, chez les gens, je pense que ça provoque une frustration, parce qu'on vote, puis on se dit, si on n'est pas représenté, quel est l'intérêt, donc on ne va plus voter. Et peut-être que là-dessus, j'espère, je pense qu'ils sortiront de ce grand débat, mais qu'on va peut-être un peu corriger ces institutions pour que les gens reviennent voter. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et après tous les problèmes qu'on voit, c'est vrai, l'environnement, les transports, ce sont des sujets très importants qu'il faut prendre en bras le corps. Hein. Il faut pas hésiter là-dessus, mais c'est très difficile parce qu'on le voit d'ailleurs dans les chiquiers politiques. Hein, d'un parti à l'autre, soit dans l'État des bourgs, il y a des oppositions énormes, quoi, des façons de voir et qui sont tout à fait antagonistes. Mais bon, il faut avancer dans ces zones-là. Mais je crois qu'aussi des meilleures institutions où on arriverait à représenter tous les partis politiques, peut-être que les gens seraient moins en colère et moins, peut-être moins gilets jaunes.
Pour ce que je veux dire.
Oui, pas que ça, il peut y avoir autre chose aussi. On voit, c'est vrai qu'en France, on a finalement un pouvoir présidentiel qui est assez énorme, un peu monarchique. Bon, c'est vrai que l'inversion du calendrier n'a pas été heureux, puisque dès que le président est élu, bon, ben après, derrière, c'est un enregistrement. Et voilà, ça amplifie le résultat et on a une personne. C'est vrai, un président en France, c'est pas maintenant. Hein. Ça dure depuis déjà plusieurs mandats présidentiels. Donc, qu'est-ce que. Voilà, il faudrait corriger. Bon, la proportionnelle est une chose, mais pas que ça. Le rôle du Premier ministre qui n'est pas élu, pas comme au président, etc. Voilà, merci.
Ben moi, je peux rebondir un peu là-dessus. Justement, bon, hier soir, au grand débat de portée, de
Rock.
C'est pareil, j'ai évoqué le sujet que tu viens de dire au sujet des votes blancs. Moi, j'espère que quand même que le vote soit obligatoire et que le vote blanc soit comptabilisé. Parce qu'il y en a marre qu'il y a des élus qui soient élus par défaut. On vote lui parce qu'on ne veut pas lui. Et ça, c'est pas normal. C'est aberrant. Pour moi, c'est aberrant. Parce qu'en fait, on a quelqu'un qu'on ne souhaite pas. Et moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que vous prenez le pourcentage des votants, et bien en fait, la personne qui est élue, elle n'a pas été élue, en fait. Donc, moi, j'espère que ça deviendra obligatoire et que le vote blanc soit comptabilisé.
Ça existe moi, ailleurs et c'est pas
je
des...
Je pense que c'est pas qu'une question de régime, mais de... Parce que vous parlez du vote obligatoire, moi, franchement, je suis pas d'accord. Parce qu'on va être encore une fois téléguidé, on le voit sur le coup de Marine Le Pen et Macron, on nous l'a fait en 2002, on nous le refait en 2017. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va finir par quoi? Par une dictature. Si vous ne votez pas, ça va de quoi la prochaine fois? On va à quoi comme loi? Moi, je suis. Les gens sont libres, sont assez intelligents de savoir pour qui ils vont voter. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, c'est tout. Comme c'est à la base. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, et pas le contraire.
Pardon. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas assez de représentation du peuple. Et quand, malheureusement, il devrait y avoir aussi dans les instances qui font les lois, à l'Assemblée nationale, au Sénat, des gens qui fassent partie des ouvriers. Voilà, ou alors qu'il y ait un collectif où la parole est prise en compte. Mais des gens de terrain qui travaillent, qui continuent à travailler et qui ne sont pas sortis depuis des années du système du travail. Voilà. Donc je passe la parole.
Bon, juste une petite parenthèse pour le vote obligatoire. On s'est battu pour avoir droit au vote. Donc moi je trouve que ça mérite. Non, mais attendez. Juste que je ne vous cache pas que je suis gilet jaune. Donc déjà c'est une parenthèse. Donc,
c'est pas en Suisse que le vote est obligatoire.
Et aussi pour les cumuls de mandats, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il devrait y avoir,
oui, en Suède, au Danemark, etc.
Il devrait y avoir, voilà, à la rigueur, deux mandats et après terminé. Il faut que passer la main à d'autres. On en a marre de voir toujours les mêmes. Ils nous pondent toujours les mêmes choses. On en a ras-le-bol. Les citoyens, ils en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes... Voilà, je pense que ça mérite d'être débattu et ça mérite qu'on s'écoute, qu'on s'entende, qu'on parle, qu'on fasse plein de choses ensemble. On est tous des êtres humains et je pense qu'il faut se battre tous ensemble. Et si, autrement, on n'y arrivera pas. Si on attend le gouvernement, on n'arrivera à rien. Déjà, ça démarre dans les communes. Et dans les communes, comme ça se passe pas merveilleusement bien, comment voulez-vous que là-haut, ça se passe bien? C'est pas possible.
Bonjour. Il n'y a pas que le cumul des mandats, il y a également au niveau des députés, sénateurs, tout le cumul de leur salaire, de leur prime, de leur retraite. On arrive à des sommes vraiment qui, à nous, nous paraissent presque impossibles. Parce que quand vous voyez certaines personnes qui essaient pour augmenter leur niveau de vie, de cumuler une retraite avec un petit emploi, dès que vous dépassez un certain plafond, eh bien, on vous pénalise parce qu'on vous donne moins de retraite et moins d'aide. Donc je ne vois pas pourquoi, en tant que citoyen français, nous ne sommes pas tous sur un pied d'égalité.
Bon, voilà. Je pense que l'inégalité est devenue quasiment la norme. Et, on a et je crois que le mouvement des Gilets jaunes est bien la preuve que Macron est perçu quand même comme le président des riches. Et
qui le reprend ?
Répondre sur votre comme vous voulez dire. Mais franchement, mais c'est parce qu'il nous a habitués à ce discours. C'est ce qui s'appelle le divisé pour mériter. Moi, à l'école, on m'a toujours appris que la République est une indivisible. Donc, c'est moi j'appelle enfin, un territoire, c'est la France, c'est pas voilà. Mais parce que moi j'ai vécu dans un quartier où c'était pareil. Alors, on a donné plein de noms, ZUP, machin. Et puis d'ailleurs, ghetto, enfin moi j'en passe, hein. Mais c'est parce que c'est voulu. Parce que c'est des technocrates. Et qui, c'est la plupart du temps, si jamais on fait des grandes écoles, et bien sûr, bien entendu, ils manient bien la parole. Et puis, les simples d'esprit, ils gobent tout. Ils gobent tout, et ça fait, excusez-moi, je sais pas, je vais faire peut-être un peu de la politique, ça fait des extrêmes, ça fait du FN, ça fait voilà. Des gens qui se font la guerre, mais c'est parce que c'est voulu. Et il faut savoir qu'il y a des gens, par rapport à ce que disait la dame, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Et moi j'en connais. Qui ne savent pas ce que c'est que le travail d'usine, le travail d'une secrétaire, ou se faire engueuler. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc à ce moment-là, c'est... Oui, oui. Ils ne savent pas ce que c'est que d'aller... entre autres, voilà. Mais de toute façon, quoi qu'on dise, de toute façon, mais c'est...
Il n'y a que des solutions. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. C'est à nous à changer tout ça. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, on a le droit de vote. Mais il y a des gens, on ne les oblige pas, ils n'y vont pas voter. Mais c'est parce que... Et puis, moi, je parle de Macron. Moi, personnellement, je n'ai pas voté pour lui. Donc, je m'a pas fait le choix entre Marine Le Pen et tout. Donc, moi, ça a été vite fait. Donc, je n'ai pas voté ni pour l'un ni pour l'autre. Donc voilà. Qu'on aura fait en 2002, on est capable de nous le refaire peut-être dans deux ans, donc voilà. Mais après, c'est aux gens à se réveiller, quoi, à réveiller leurs enfants, à leur donner une éducation, à dire voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais je sais pas, c'est simple, comme de boire de l'eau. Voilà, il y a des gens qui sont dangereux, à qui il ne faut pas donner le pouvoir, basta, hein, c'est tout, moi je le vois comme ça. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport, bon, parce que moi, la biodiversité, ça me tient à cœur, parce que voilà, j'ai encore envie de vivre, quoi. Donc je me dis, moi, s'il n'y a plus d'abeilles pour m'amener, tout en sachant que les abeilles, c'est énorme, quoi. Les fruits, enfin bon. Et puis j'ai laissé la parole là parce que ça.
Mais c'est capital,
ça me tient tellement que...
C'est vital, ça, complètement. Oui, oui. Alors, on ne mange pas les cailloux. Hein.
Moi, ce qui me préoccupe, ce qui me fait le droit de nous concerter, de discuter, et bien moi, je pense que nous devrions faire comme première demande que ce genre de manifestation, on ne peut pas appeler ce genre de concertation passe dans les usages. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que Macron ou les autres nous disent « Bon, ben, vous avez eu le droit à la parole, vous avez fait une concertation, des débats, bon, maintenant, vous fermez vos... Hein, on vous a entendu, n'en parlons plus, et ça ne se reproduira plus. » Non, là, il faut être extrêmement exigeant, parce que cette façon de faire va peut-être réveiller chez l'ensemble de nos concitoyens, la nécessité de se sentir concerné par la politique. Parce que la plupart du temps, que faisons-nous lorsque nous votons? Nous arrivons, nous élisons une équipe, et puis maintenant, ils sont élus pour 5 ans, 3 ans, ou 8 ans, peu importe, ils sont élus pour une mandature qui se démerde et qui viennent plus nous parler de politique, on ne veut pas s'en occuper. Cette attitude est déplorable. Et donc, je pense qu'il faut essayer de montrer aux gens que le fait d'être là, d'être présent et d'exercer ses capacités pour réfléchir à l'ensemble des problèmes, parce qu'il n'y a pas un problème, hein, il y en a des dizaines, je pense que déjà, si on obtenait que ce genre de débat devienne une sorte d'habitude, ce serait déjà un énorme pas fait en avant.
Oui, je voulais juste dire que effectivement les jeunes ne sont pas intéressés, mais on ne fait rien pour les intéresser. Et je pense que nous tous, on devrait beaucoup plus aller sur les lycées, aller voir les jeunes, aller les démarcher. Il faut qu'on soit proactif, parce que eux, ils sont préoccupés par leur adolescence, par leur avenir, par le monde qu'on leur laisse. Beaucoup sont en colère et ils ont le droit d'être en colère parce que bon, c'est pas trop nous les fautifs, c'est un peu plus nos parents, mais on est quand même responsable du monde qu'on leur laisse. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse cette démarche d'aller vers les jeunes.
Très bien.
Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au nombre que nous étions, ce que moi je remarque, c'est que on n'a pas besoin d'être très nombreux pour avoir un débat d'une extrême grande qualité, et on n'a pas besoin forcément d'être bien installé au chaud dans une salle pour dire des choses très fortes. Voilà.
Très bien.
Et à propos des jeunes,
d'après ce que j'ai compris, le sujet de ce débat, c'est la biodiversité. Et je suis une fervente défendrice des petites fleurs, des petits oiseaux et des grenouilles. Mais Je voudrais profiter de l'occasion pour signaler que notre société met un peu à l'écart la diversité de l'humain. Et en termes d'humain, je trouve que, à l'instant on parlait des jeunes, je trouve que notre société ne fait pas assez de place aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
Ça, c'est sûr.
En particulier, les jeunes handicapés, ils sont pris plus ou moins bien en charge par la société jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, ils sont foutus à la porte des institutions et ils se démerdent.
Alors, si quelqu'un veut encore prendre la parole, ça fait une heure qu'on parle. Moi, je trouve que c'est déjà
pas mal,
considérable même. À moins que quelqu'un veuille prendre la parole, je pense qu'on va...
On va clôturer, on pourrait expliquer ce qui est le dispositif. Hein. Donc, vous pouvez, on a oublié de vous le dire, mais vous pouvez déposer votre avis par écrit, si vous le souhaitez, dans le lieu. Et nous, on retransmettra votre contribution sur la plateforme du Grand Débat. Donc, vous avez vu, le Grand Débat a été... Il y a eu une prise de notes pendant le débat. C'est cela qui sera donc déposé sur la plateforme du Grand Débat. On remercie Sylvie. Attends,
et on peut remercier Sylvie.
Pour conclure, je pense que l'important sur nos communes et pour tout le monde, c'est de remettre l'humain au centre des décisions, mais de toutes les décisions. Et pour ça... il faut que les citoyens se saisissent des sujets. Voilà, c'est regarder quand est-ce qu'il y a un conseil municipal, s'intéresser aux décisions qui sont prises pour les citoyens et aussi s'intéresser aux intercommunalités, parce qu'il faut que vous sachiez que l'intercommunalité prend beaucoup de pouvoir. Voilà, et que des décisions qui sont prises pour notamment nous ici les Labartés se prennent beaucoup à l'intercommunalité. Donc quand vous voyez par exemple votre maire, vous le voyez qu'à moitié, parce qu'il n'a que la moitié des pouvoirs. Voilà. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Et surtout, c'est de prendre des décisions avec du bon sens et remettre l'humain. Voilà.
Ok. Très bien. Donc je vois qu'on a quand même resté sur nos deux sujets qui étaient la démocratie et l'écologie. On est resté beaucoup sur ces questions. Monsieur Barbet veut parler, donc on va continuer à donner la parole.
Il n'y a pas de problème.
Oui, je vais en rajouter, peut-être que le thème a déjà été abordé, excusez-moi. Mais il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, qui enlève aux yeux d'une majorité de personnes toute valeur authentique au vote. À savoir que c'est cette obsession de l'électoralisme. C'est-à-dire que quand on est élu et qu'on veut rester en place, on s'y accroche en utilisant des moyens extrêmement sournois qui enlèvent vraiment beaucoup de valeur au rôle de l'élu. Parce que l'élu, dans ce cas-là, il se transforme en une sorte de personne qui fait du porte-à-porte et qui dit « j'ai fait ça pour vous, alors attention, vous n'oubliez pas de lorsque vous serez dans l'isoloir, etc. » Et ça, c'est une véritable plaie, quoi. C'est ce qui enlève au système toute authenticité, toute sincérité, c'est vraiment une plaie. Voilà. Contre ça, je pense qu'il faudrait réfléchir pour voir comment on pourrait diminuer ce genre, amenuiser, amortir ce genre d'attitude, quoi. Voilà.
J'espère que vous avez pu vous y retrouver dans ce débat. Je vous dis à mercredi prochain, à samedi, j'espère qu'on pourra faire une rediff. Et de toute façon, à mercredi suite. Merci de votre écoute et donc bonne semaine, bon week-end et prenez garde à vous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 80.